verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Donc Pierre annonce l'évangile et on voit encore les mêmes idées, les mêmes points principaux qui se dégagent dans l'annonce que fait Pierre. Ce témoignage de Jésus qui est Seigneur de tous, qui est le Messie envoyé par Dieu, sa mort et résurrection dont ils sont témoins. Le commandement que Jésus leur a fait de l'annoncer. Entre parenthèses, là, on voit qu'il dit que Jésus est le juge des vivants et des morts. Et si on veut plus de détails par rapport à ça, Pierre a fait tout un exposé assez détaillé sur le séjour des morts et les idées qu'il y a derrière ça par rapport à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Dans notre étude du livre d'Ésaïe, il y a quoi? Il y a deux semaines? Deux, trois semaines? Vraiment détaillé, qui permet de bien comprendre ça.
Pierre, pas l'apôtre.
Pedro Paolo.
Ton papa.
On voit qu'il annonce aussi que Jésus accomplit les prophéties, qu'il est là en accord avec les prophètes, et que croire en lui donne le pardon des péchés. Et Pierre laisse l'esprit diriger, et au milieu de son enseignement, il est interrompu, parce qu'il voit que l'Esprit Saint est en train de descendre sur les gens en sa présence. On voit que les langues, le don des langues sert encore à exalter Dieu, à louer Dieu. Et on voit encore que le peuple est touché, qu'il vienne à Jésus sans que Pierre, ne fasse vraiment d'appel ou d'annonce. Ils ont déjà dans leur cœur commencé à croire en Jésus comme leur maître et sauveur. Et cet esprit qui vient sur eux, c'en est la preuve. Et donc Pierre, il se dit, si Dieu lui-même fait ça, qui suis-je moi pour m'y opposer, pour dire qu'ils n'ont pas à être baptisés précédemment? L'Église refusait a priori de baptiser des personnes qui n'étaient pas devenues juives, qui n'avaient pas été circoncis, qui n'avaient pas accepté la culture juive avant de devenir croyants. Ils n'acceptaient pas de les baptiser. Et on peut noter aussi que leur baptême ici n'est pas une condition pour qu'ils soient sauvés, pour que l'Esprit vienne en eux et que l'Esprit vienne sur eux, mais c'est plutôt un signe du fait qu'ils avaient déjà reçu le salut, un signe extérieur. Là encore, ce passage pour les gens qui disent qu'on est sauvés quand on croit en Jésus et que l'on est baptisé, il y a certaines personnes, certains mouvements d'église qui annoncent ça. Ils ont un problème avec ce passage parce que l'Esprit de Dieu vient sur eux, ils ont le don de parler en langue alors qu'ils n'ont pas été baptisés. Et cette, cette venue, ce salut qui vient aux païens, c'était quelque chose qui était annoncé. Là encore, il y a des choses si on regarde dans Ésaïe 60, lève-toi, brille, car Ésaïe 60, versets 1 à 3, lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. On peut penser que ça parle de nations comme ça, ça parle de plus de nations que de la nation juive. On a plusieurs passages aussi avec Jésus. Par exemple, dans Matthieu 8, justement l'épisode où il y a ce centenier qui vient à Jésus en lui demandant de guérir sa fille, et que Jésus lui demande s'il doit venir à sa maison, et le centenier dit non, je sais que tu as autorité sur ces choses-là et qu'il te suffit de le dire pour que ça arrive. Et Jésus est plein d'admiration et il dit en vérité, c'est Matthieu 8, verset 10. Il dit, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Et verset 11, or je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et verset 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et donc il y a déjà cette idée avec Jésus que des gens qui sont pas dans la nation juive vont être acceptés. On peut regarder aussi dans Jean. Jean 10. Verset 16. C'est Jésus qui parle du fait qu'il est le bon berger. Et il dit verset 16, donc Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Là encore, cette idée que des gens qui sont pas de la bergerie de la nation juive vont venir à lui. Et dans Jean encore, chapitre 12, verset 32, il dit, Jésus dit encore, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a cette idée que les païens vont être acceptés aussi dans le royaume de Dieu. Et on peut encore regarder, comme je vous l'ai dit, ça va rester un problème. Et Paul va l'annoncer plusieurs fois dans ses livres. Dans Romains 1, 16, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Les juifs et les grecs sont sauvés par l'évangile. Encore dans Romains 10, 12, il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là encore, cette idée qu'il n'y a pas de séparation entre les juifs et les non-juifs. On peut lire dans Éphésiens 2, si vous voulez vous y tourner, là il y a un passage beaucoup plus complet où Paul va parler des païens et des juifs et de la séparation et du fait qu'ils ne sont plus séparés en Christ. Il annonce au début, donc dans Éphésiens 2, il annonce le fait qu'on est sauvé par la grâce, que c'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et dans Éphésiens 2, 11, il dit « Souvenez-vous donc de ceci, autrefois vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent incirconcis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimité. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant pour mourir par elle l'inimité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens. Si on continue là en lisant, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Il y a vraiment cette idée, et Paul l'appuie fortement, qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus de division, que les païens sont comme les juifs et qu'ils forment un même corps devant Dieu. On peut encore regarder, juste si vous voulez noter peut-être, Colossiens 3, 11. Il dit, en lisant à partir du verset 9 ou verset 11, « Revêtus de la nature, ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtus la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Et dans Galates encore, Galates 3, 28, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ Jésus, en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc tout ce qui arrive là, on voit par les lettres de Paul, qui va être obligé maintes et maintes fois par des mots forts de le réaffirmer, de le re-annoncer, de le redéclarer, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a pas de différence entre les juifs, les non-juifs, les incirconcis, les circoncis, entre les femmes, les hommes, entre les esclaves, les maîtres. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de séparation. C'est quelque chose d'important et quelque chose qui souvent et sans doute dans cette culture-là et dans notre culture aussi peut choquer et marquer les gens de voir l'amour de Jésus transpercer et aller au-delà des différences sociales et des séparations que nous avons dans notre tradition, dans nos cultures, dans nos vies. Peut-être un peu moins dans notre culture, bien qu'on ait, on ait des séparations, il y a des pays ou des endroits où il y a des séparations encore plus fortes. On peut penser à l'Inde avec les systèmes de caste ou d'autres pays, mais où il y a vraiment des séparations et la foi chrétienne n'a pas de... Il n'y a pas lieu d'avoir de séparation, de division. Et avant de passer au chapitre 11, on peut noter quelque chose concernant Corneille. Une dernière chose, c'est que malgré le fait que c'était un homme bon, qu'il faisait a priori des choses qui étaient agréables à Dieu, il avait quand même besoin de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, que les gens n'aiment pas qu'on leur dise. Ils aiment bien penser que quelqu'un de bon peut arriver au ciel, mais on voit dans cet épisode que malgré le fait que Corneille était quelqu'un de bon, qui a priori était très respectable et qui avait un bon témoignage même chez les juifs, qu'il avait quand même besoin de Jésus pour être sauvé. C'est intéressant aussi le contraste entre Paul qui était complètement opposé à Jésus, que Dieu a pu amener à lui, pardonner, et puis quelqu'un de bon et de a priori qui recherchait Dieu, qui recherchait la volonté, qui était ouvert à tout ce que Dieu avait à lui annoncer et qui avait lui aussi besoin de Jésus. Il y a cette idée que tous, autant que nous sommes opposés à Dieu activement ou alors recherchant la face de Dieu, on a tous besoin de Jésus. Lisons ensemble chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsqu'en extase j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois du ciel, la voix reprit « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, les trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa, Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. » Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu, en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Cette histoire, en quelque sorte, c'est notre héritage spirituel. On peut se dire, hein, je ne sais pas si vous avez des parents juifs, moi, ma connaissance, j'en ai pas. Et En quelque sorte, c'est notre héritage spirituel qui s'est joué dans cet épisode. Et de voir aussi qu'un épisode comme ça a été répété dans toute sa longueur, en tel détail. Un des commentateurs faisait noter qu'à l'époque, les écrivains étaient limités physiquement par la place qu'ils avaient parce qu'ils écrivaient sur des parchemins qui étaient roulés. Et à partir d'un certain moment, le truc il devenait trop gros. Donc il y avait une certaine longueur à laquelle ils se limitaient et au-delà duquel c'était très difficile d'aller. Il fallait vraiment employer des grands moyens. La plupart des gens ne le faisaient pas. Et donc le fait que Luc, dans son exposé, prenne le temps et la place physique de répéter en détail cette histoire de la sorte, montre vraiment l'importance et le fait que l'Église devait comprendre que qu'il y avait cette volonté de Dieu que l'Évangile soit pour tous les hommes et pas seulement pour les Juifs. Et on voit donc les croyants juifs à Jérusalem font des reproches à Pierre. Ils disent « Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'es rentré dans la maison de non-juifs ? T'as mangé avec eux ?»
Je trouve que ça me fait vraiment penser à une scène semblable avec Jésus dans Matthieu 9, versets 10 à 13, quand il va avec...
C'est quand il a
appelé Lévi. Avec les païens, quoi. Mm-hmm. Les pharisiens. C'est tout pareil. Il dit, mais je ne suis pas venu pour...
Pour appeler des justes, mais les pécheurs.
Ouais, exactement. Mm-hmm.
Mais c'est ce que je disais, c'est ce qui est marrant, en fait, de se dire que tous les apôtres étaient là. Et on se dit, mais pour... Jésus, dans sa vie, par l'exemple, avait fait ce genre de choses. Pourquoi eux ne l'ont-ils pas compris? Il y a un peu une... Et ça montre un peu notre lenteur à comprendre et à apprendre les choses.
La force des traditions
et de notre culture, de nos préjugés, de nos critiques face à certaines choses, de notre esprit fermé. Comme on l'a déjà dit, il y a vraiment... On doit avoir cette humilité. Comme je vous disais pendant la pause, c'est important qu'il y ait dans nos cœurs, dans la vie de l'Église, dans la vie des dirigeants de l'Église, cette j'ai envie de dire tendresse ou cette humilité de se dire je me suis trompé, ou j'avais pas encore compris, ou j'avais pas saisi les choses, et Dieu m'a repris, Dieu m'a montré quelque chose. Et pour moi, quand on est dans une église et que le pasteur ou les dirigeants peuvent dire Dieu m'a repris par rapport à certaines choses, ou qu'ils ont une humilité ou aussi une absence de, on va dire, de une sorte d'humilité vis-à-vis de leur position en disant moi, qui sont pas dogmatiques par rapport à des points non essentiels de leur doctrine, de leur compréhension des Écritures, c'est vraiment un bon indicateur d'une église en bonne santé quand on est prêt à se laisser reprendre par Dieu malgré le poids des âges. Souvent avec le temps, avec l'autorité, avec l'expérience, on peut être leurré et se dire mais... Enfin, je vois facilement tes gens plus... Je me dis... Quand tu as été dans le ministère pendant 20 ans, que tu as tout enseigné dans la Bible, tu peux avoir, il y a toujours ce danger qui est une fierté spirituelle où tu dis non mais attends, tu m'as vu, ça, je suis là depuis longtemps, moi je comprends les choses, toi tu n'as rien compris. Il peut avoir cet esprit-là et de voir qu'il... qu'ils acceptent. Pierre remet la responsabilité sur Dieu et dit que c'est Dieu qui m'a montré ça, c'est cette vision que j'ai eue. Il répète l'histoire. Il dit c'est Dieu qui a amené ces gens, qui a montré une vision à Simon, qui nous a ramenés. Et après, il y a même l'Esprit de Dieu qui est venu sur ces hommes. Alors, qui j'étais moi pour m'opposer à ça? Il pèse ce qui se passe vis-à-vis du... de l'Écriture, il dit Jean vous baptisera d'eau et ensuite moi du Saint-Esprit. Donc c'est comme ce qui nous est arrivé au début, comme ce que Jésus avait annoncé. Donc c'est vraiment en accord avec la parole. Et donc qui j'étais moi pour dire non et pour m'y opposer. Et heureusement pour nous et pour l'Église et pour le plan de Dieu, ils acceptent cette parole. Ils se réjouissent et ils glorifient Dieu. Et ça, c'est un challenge et une question que nous, on doit se poser continuellement toute notre vie aussi. Comme je disais, Pierre avait cette autorité. Il aurait pu dire, mais attends, c'est moi Pierre, j'étais avec Jésus, j'ai déjà converti 3000 personnes à Jérusalem, c'est moi le big boss. Il aurait pu avoir cette fierté, cette arrogance, et il y a une... malgré le fait qu'il ait dit non Seigneur, il y a quand même une humilité et il accepte la direction du Seigneur pour le reprendre et lui apprendre de nouvelles choses et changer sa compréhension de Dieu et de qui il est, de sa volonté. Et pour nous, on doit, en lisant les Écritures, en priant, dans les circonstances de nos vies, on doit se demander si on n'est pas en train de limiter Dieu ou de s'opposer à Dieu à cause de nos idées préconçues, de notre compréhension limitée, de nos préjugés, de nos traditions, de nos habitudes. Et de prier Dieu qu'on reste tendre et qu'on soit pas résistant à ces choses quand il veut nous changer, nous montrer des choses. Et malheureusement, comme on le voit plus loin dans le livre des Actes, on le verra, et dans le livre de Paul, comme on l'a lu, ça reste un problème malheureusement dans l'Église du début. Il y a des groupes de Juifs qui voyagent entre les églises pour remettre une couche et dire non, il faut être circoncis, non, il faut respecter la loi, etc., etc. Et il y aura ce combat qui va durer dans l'histoire de l'Église. Disons ensemble la fin du chapitre 11. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, ils l'envoyèrent aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Donc on a un petit peu un retour dans le temps. Des Juifs qui partent en Phénicie, à Chypre, à Antioche, qui annoncent la parole mais aux Juifs. Et on voit qu'il y a quand même quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui à Antioche commencent à annoncer la bonne nouvelle aux Grecs. Antioche, c'était la troisième plus grande ville de l'Empire romain à cette époque-là. Il y avait Rome et Alexandrie, et ça c'était la troisième ville de l'Empire, avec a priori, je pense, un demi-million de personnes qui habitaient là. C'était une ville avec une tradition religieuse assez forte, avec une morale très mauvaise, pas mal d'inconduites sexuelles, de prostitution dans les cultes et dans le culte qu'il rendait à certaines divinités, qui était connu pour ça. Et on va voir dans le livre des Actes que ça devient un centre missionnaire pour le reste du monde. Là encore, Dieu se sert d'une ville qui pouvait a priori sembler comme irrattrapable pour toucher le reste du monde. Et on voit qu'un grand nombre de non-juifs viennent à Christ. Et c'est parce que, verset 21, la main du Seigneur était avec eux. Ils se convertissent. Et donc l'église à Jérusalem envoie Barnabas. C'est une personne dont on a déjà entendu parler. Son nom veut dire fils de consolation ou celui qui réconcilie. Et c'était une bonne personne à envoyer. Comme il est dit ici, un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Mais on se souvient aussi que c'est lui qui avait pris Paul, alors que les apôtres ne voulaient pas le recevoir, doutaient. Et donc, en quelque sorte, c'est une personne parfaite à envoyer dans ces circonstances-là pour aller un petit peu s'enquérir de l'état de ces conversions, de voir ces non-juifs qui étaient venus à Christ, de voir l'état des choses, de faire le point. Et il voit la grâce de Dieu et il s'en réjouit et les exhorte tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Un des commentateurs disait que c'est vraiment nos cœurs qui sont le centre de notre volonté. Et Barnabas, sachant sans doute les difficultés qu'ils allaient rencontrer et les problèmes qu'ils allaient pouvoir avoir, il fallait vraiment que dans leur cœur, ils décident de suivre Jésus, de rester résolument attachés au Seigneur. Ça nous rappelle un petit peu les mots qui sont employés pour désigner la décision de Daniel dans le livre de Daniel, quand il y a un décret du roi qu'ils vont tuer les gens qui ne s'agenouillent pas devant des statues. Et Daniel, résolu, il se décide dans son cœur de ne pas louer ce faux Dieu et de prier, de rester attaché au Seigneur, de prier Dieu et de prier Dieu trois fois par jour. Il y a cette même idée de résolution dans le cœur, de fermeté. Et là, il y a plusieurs choses qu'on peut appliquer à nous-mêmes. D'abord, qu'est-ce qu'on voit dans notre église? Est-ce que quelqu'un qui vient peut voir la grâce de Dieu, peut se réjouir de la grâce de Dieu, une grâce visible dans l'Église. Ensuite, on voit que Barnabas se concentre sur les croyants. Et il y a cette importance aussi d'édifier l'Église, de fortifier l'Église. Paul en parle dans ses épîtres, mais cette idée que les dirigeants de l'Église ont aussi cette responsabilité de travailler à faire des chrétiens en bonne santé et de s'attacher à fortifier et à enseigner les croyants, et que de cette manière-là, le corps de Christ grandit aussi de manière naturelle. Et c'est ce qu'on voit après dans la suite, verset 24, il y a cette répétition. On a verset 21, un grand nombre, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur, et Barnabas vient, exhorte et encourage et enseigne les croyants. Et on voit verset 24 qu'il y a une foule encore nombreuse qui se joint au Seigneur. Et ça reflète aussi cette idée qu'il faut, il y a cette responsabilité aussi de fortifier, de faire grandir les croyants qui sont présents dans l'Église. Un des commentateurs notait qu'il y a une distinction entre exhorter, prêcher et enseigner. Que prêcher, c'est annoncer l'Évangile aux non-croyants. Une fois que les gens viennent à Christ, ils ont besoin d'exhortation pour rester attachés au Seigneur, malgré les oppositions, les difficultés, les doutes, de rester avec lui. Et qu'ensuite, il y a besoin d'enseignement, de comment vivre en Christ, de comment se porter. Et que c'est quand il y a ces trois choses dans l'Église que ces choses sont essentielles pour l'accroissement de l'Église. Évidemment, avec la présence du Saint-Esprit. Et on peut se demander, on peut regarder dans les églises où on est, est-ce qu'il y a un déséquilibre entre ces différentes choses, est-ce qu'il y en a certaines qui manquent, Et on va voir que c'est ce que va faire, c'est ce que Barnabas et Saul vont faire. Après que Barnabas soit parti à Tarse pour chercher Saul, on peut se dire peut-être que Barnabas a pensé « Je connais le mec parfait pour cette situation, il connaît parfaitement la culture grecque, juive et tout, il est à Tarse. » On ne sait pas, peut-être que Dieu lui a demandé d'aller le chercher. Mais il va le trouver, il le ramène à Antioche et pendant une année entière, il participe aux réunions d'église et ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Cette idée qu'ils enseignent, qu'ils... qu'ils font croître l'Église en s'occupant des croyants. Et là encore, ça faisait longtemps que Paul était venu à Christ, a priori une dizaine, peut-être 10, 11 ans. On sait que quand il va redescendre à Jérusalem, de ses propres mots, a priori, c'était 12 ans après sa conversion. Donc il a vraiment patienté longtemps avant d'entrer dans un ministère. Un des commentateurs disait que le mot employé ici, quand Barnabas part chercher Saul, il y a vraiment une notion de recherche minutieuse, avec une recherche avec difficulté, que Paul n'était pas facile à trouver. Qu'il a patienté avant de venir, de rentrer pleinement dans le ministère comme ça. C'est là la première fois qu'ils sont appelés chrétiens. Chrétien, ça veut dire personne de Jésus ou quelqu'un qui suit Jésus. Quoi ? Oui. Et les commentateurs pensent que ça venait sans doute des non-croyants. Qui utilisait ce terme-là pour se moquer en quelque sorte des chrétiens et que c'est resté. Un autre commentateur disait que notre nom doit être chrétien, peuple de Jésus ou personne de Jésus, plutôt que catholique, protestant, évangélique, charismatique, etc., etc. Il y a des prophètes qui descendent par la tradition de l'Église première. On sait qu'il y avait pas mal de prophètes qui voyageaient un petit peu entre les églises, qui se disaient prophètes, qui venaient annoncer des choses. Apparemment, il y avait même un livre avec des conseils pour savoir comment déterminer si un prophète était valable ou pas. Et donc, en quelque en quelque sorte la note de Luc ici, disant qu'il y en a un qui était véritable, qui avait annoncé la famine qui a eu lieu sous l'empereur romain Claude. Elle a bien eu lieu. Et pendant cette période, l'église à Jérusalem a besoin d'aide. Et l'église d'Antioche va faire preuve de son amour et de sa compassion pour l'église à Jérusalem en donnant, selon ses moyens, et en le faisant porter par Barnabas et Saul. Et là encore, on voit l'amour de Jésus qui franchit les barrières. Il y avait cette résistance et peut-être même cette méfiance initiale de la part du peuple, de l'église de Jérusalem vis-à-vis de l'église d'Antioche. Et eux leur apportent leur soutien financier quand c'est plus difficile pour l'église à Jérusalem. Voilà pour ce soir.